Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 20h55 pour toute l'actualité de ce mardi 31 janvier avec l'équipe de C'est à vous autour de cette table. Salut à tous les cinq.
Bonsoir.
Émilie, votre choix de l'actu ce soir.
Le grand gaspillage de nos médecins alors qu'on en manque cruellement. 27 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année.
Ça s'appelle le phénomène des lapins que dénoncera dans un instant le docteur Jimmy Mohamed, médecin généraliste et que vous retrouvez tous les jours sur France 5 aux côtés de Marina Carrère-Dancausse dans le magazine de la santé. Il sera dans un instant avec nous. Mohamed, votre story ce soir.
Je vous parle d'une star de YouTube qu'on appelle désormais aux États-Unis le bon samaritain. Il a rendu la vue à 1000 personnes. Je vous explique comment dans quelques minutes.
Patrick, votre édito.
Un peu moins de grévistes, mais beaucoup, beaucoup de monde dans les rues. Aujourd'hui, le Front uni des syndicats réussit sa deuxième démonstration de force contre la réforme des retraites. Je vais faire le point sur cette mobilisation du jour.
Un succès qu'on commande ce soir avec le secrétaire confédéral de la CGT, Fabrice Angéhi. Bonsoir.
Bonsoir. Vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On confronte votre point de vue à celui de Nicolas Bétou, journaliste et directeur du quotidien L'Opinion. Merci d'être à nouveau au rendez-vous.
Bonsoir.
De cette actualité des retraites et de la mobilisation contre cette réforme. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Moi, je vais vous parler de Loïc Akono, qui est basketteur messin. Et il était au sol lors d'un match lorsqu'il a entendu « Relève-toi, bonobo ». Il dénonce le racisme dans le basket. On va l'écouter ce soir.
Pierre, votre œil.
Quelle est la passion des omphalopsiques? Ils adorent regarder leur nombril, voir celui des autres. Ça fait partie d'un reportage qu'on retrouve dans Paris Secret, qui était un film de reportage bizarre qui était sorti en 1965. Il revient en DVD. J'allais pas passer à côté de ça.
Il y a d'autres bizarreries.
Oh là.
Oh, ça donne envie. Ça, c'est juste après 20h. On reçoit deux journalistes d'investigation très connus, Gérard Dave et Fabrice Lhomme, qui ont signé le livre Choc des confidences de François Hollande. Un président ne devrait pas dire ça. C'était un livre, c'est devenu quasiment une expression de la vie courante pour commenter la vie politique. Ben maintenant, c'est une pièce de théâtre. Il nous en parle, c'est à partir du 10 février au Théâtre Libre à Paris. Puis on reçoit aussi un chanteur, Christophe Willem, dont le sixième album est un succès. Un album qui a été inspiré par l'échec de son précédent album. C'est une sorte de renaissance dont il nous parle ce soir autour du dîner préparé par Loïc Lourmière, le chef du Bel Ami à Étretat, qui est aux côtés de Bertrand Chamerois. Salut à tous les deux.
Salut Babette, ce soir au menu, si je ne dis pas de bêtises, Loïc, du macro.
Du macro.
Ça tombe bien, ce jour de grève, j'ai envie de dire...
On est là, même si le macro ne veut pas nous, on est là. Brûlé au chalumeau, avec vinaigrette d'agrumes, même si le macro ne veut pas nous, on est là.
Bravo, bravo, bravo. Voilà. J'ai dit juste, c'est la bonne recette.
C'est ça.
Eh bien, bonne émission, Babette.
Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. C'était un acte de très attendu, aussi bien du côté syndical que du côté du gouvernement cet après-midi, avant même le départ du cortège parisien. Aussi bien Laurent Berger pour la CFDT que Philippe Martinez pour la CGT a annoncé qu'il y avait plus de monde dans la rue en France que le 19 janvier dernier. Les images et slogans à retenir avec Louis Amar et Audrey Payas.
Ça vous fait plaisir d'être au milieu de cette génération-là ?
Oui, 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 tout à fait.
Pourquoi ?
Ben parce qu'ils sont vivants et que c'est ma pancarte. Je suis ravie que les jeunes se descendent maintenant dans la rue. Moi, à l'époque, je n'envisageais pas ce que c'était un calcul sur 25 ans au lieu de 10. Maintenant, si on m'en reparlait, je pense que je serais même prête à brûler des choses.
La seule solution, c'est un rapport de force démocratique. Et ce rapport de force démocratique, on l'exerce aujourd'hui. On l'exerce par des mobilisations massives dans une intersyndicale unie autour d'un mot d'ordre qui est non 64 ans.
Et chaque fois qu'un mouvement social a gagné sur un projet de cette nature, la veille, le gouvernement disait « je tiendrai bon ». Et le lendemain, il retirait sa réforme. Donc ça viendra.
Parce que c'est le nombre qui va les faire canner. Il n'y a que le nombre. Voilà.
C'est ça la clé.
Là, il y a toutes les générations. Et il y a même des milieux sociaux très différents.
Ce qui donne de l'espoir, c'est qu'on soit là collectivement contre cette réforme. Il n'est pas question que je travaille jusqu'à 64 ans si je ne le décide pas.
C'est un sourd, il est sourd, ils sont sourds, ce gouvernement est sourd. Et c'est méprisant pour tous les gens qui sont dans la rue.
Patrick, on vient d'en voir les images, les opposants à la réforme se sont à nouveau fortement mobilisés.
Oui, c'est un deuxième succès pour les syndicats, même si les grévistes ont été moins nombreux dans la fonction publique, l'éducation nationale, à la SNCF et à EDF. Il y a eu beaucoup de monde dans la rue, pas encore d'estimation globale du nombre de manifestants à l'échelle du pays. La CGT annonce 2,8 millions, mais pour ce qui est du chiffre officiel, on devrait dépasser les 1 200 000 annoncés le 19 janvier par le ministère de l'Intérieur et sans doute les 1 200 000 de la journée record du 12 octobre 2010 contre la réforme Woerth qui avait porté l'âge légal à 62 ans. Il y a eu aujourd'hui, comme la dernière fois, des dizaines de cortèges dans toute la France, y compris dans des petites villes à l'écart des préfectures. On a défilé par exemple, voilà, j'ai relevé tout ça, à Pontivy dans le Morbihan, Anceny en Loire-Atlantique, Granville et Coutances dans la Manche, Argentan dans l'Orne ou Sablé-sur-Sarthe, la ville de François Fillon dans la Sarthe, etc. Et partout, des reporters en témoignent, au-delà des bataillons habituels, des citoyens qui disent n'avoir jamais manifesté auparavant.
Les grandes villes aussi ont fait le plein.
Oui, avec une mobilisation historique à Marseille, 40 000 manifestants d'après la préfecture, presque deux fois plus qu'il y a 10 jours, un niveau jamais vu depuis 2003. Ailleurs, les cortèges se situent dans les mêmes eaux que le 19 janvier, un peu plus ou un peu moins selon les villes. 34 000 à Toulouse, vous allez voir les chiffres sur un tableau, entre 20 et 30 000 à Rennes, Nantes et Montpellier, entre 15 et 20 000 à Caen, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Tours, Lille. Voilà le tableau. Ce sont ici les comptages fournis par la police et pourtant considérable souvent dans des villes qui ne sont pas énormes. Les autres chiffres s'affichent sur ce tableau, je ne peux pas tous les citer, mais à noter, comme il y a 10 jours, des cortèges significatifs dans les villes moyennes, de 3 à 5 000 manifestants à Valenciennes, Douai, Sète, Guéret, Tulle ou Belfort. Mention spéciale à Mende, en Lozère, 12 000 habitants, préfecture du département le moins peuplé de France, où les autorités ébahies ont compté 2 200 manifestants à Mende, donc 500 de plus que le 19 janvier.
Et à Paris ?
Alors, un peu plus de monde d'après la préfecture. 87 000 opposants contre 80 000 la première fois. La CGT avance le chiffre de 500 000 contre 400 000 il y a 10 jours. On ne va pas épiloguer sur cette habituelle bataille de chiffres. 80 ou 90 000 personnes dans les rues de la capitale. C'est un très gros cortège. Et à noter que les incidents ont été plutôt contenu à l'heure où je vous parle. Quelques échauffourées à l'arrivée du cortège près des Invalides, 23 interpellations, mais pas de horde de Black Bloc pour semer le désordre.
Et maintenant ?
Réunion de l'intersyndicale depuis une heure au siège de Force Ouvrière. Il devrait en sortir une nouvelle date de journée d'action, mais plusieurs fédérations de la CGT veulent passer à la vitesse supérieure avec des grèves reconductibles. C'est le cas dans les raffineries qui pourraient ralentir ou se mettre à l'arrêt dès le début de la semaine prochaine, lundi, mardi et mercredi.
On va revenir sur le « et maintenant » dans un instant. Juste le constat, plus de manifestants dans les cortèges, mais moins de grévistes. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on ne se met pas en grève pour tenir pour les prochaines journées de mobilisation, c'est
ça ? On va pouvoir l'expliquer très, très facilement. D'une part, lorsqu'on parle du pourcentage de grévistes, on prend les grands corps que vous êtes habitués médiatiquement à dénombrer, EDF, les cheminots, la fonction publique. Donc là, on a toujours dit que faire plusieurs jours de grève, ça pèse sur le salaire. Hein. Chacun sait qu'on a des problèmes de salaire dans ce pays. Mais maintenant, vous ne pouvez pas avoir plus de manifestants et moins de grévistes. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez beaucoup de grévistes du privé, de petites et moyennes entreprises, qui sont par définition difficiles à dénombrer. Mais vous ne pouvez pas avoir 250 lieux de manifestation, de rassemblement, avec des très forts cortèges dans des toutes petites villes, et puis ne pas avoir de grévistes. Ça veut dire que les grévistes, aujourd'hui, c'est majoritairement les salariés du privé, les petites entreprises. Mais moi, je pourrais vous citer des chiffres. Par exemple, donc, à Knorr-Lisieux, 70% de grévistes. C'est une entreprise agroalimentaire. Et on pourrait les multiplier, y compris ceux qu'on ne peut pas dénombrer. Mais les reportages dans les manifestations l'ont clairement indiqué. Des primo-manifestants, des manifestations intergénérationnelles, actifs, retraités, jeunes, femmes, hommes, voilà.
Le privé se mobilise vraiment, Nicolas Bétou? C'est ce que vous disent les entrepreneurs que vous sondez là depuis le week-end dernier?
Ils disent exactement l'inverse. Ils disent que ça ne bouge pas dans les entreprises. Alors, les grandes entreprises qui sont très syndiquées, très structurées, ça bouge. Les toutes petites, où c'est pas facile de faire grève, ça bouge pas. Les moyennes, ça bouge pas trop. Donc, tous les messages que j'ai, à la fois les patrons de grandes entreprises de services, de grandes entreprises industrielles, de petites et de moyennes, disent non, il y a une tension sur les salaires, OK, mais sur les retraites, le climat n'est pas éruptif comme on pourrait le penser. Au fond, ça donne une image assez difficile à interpréter. Il y a effectivement plus de manifestants, il y a effectivement moins de grévistes, ça c'est absolument incontestable. Mmh. Et je me demande si on n'est pas un peu dans le schéma de 2010, vous savez, la réforme Woerth, où il y avait eu 14 manifestations successives avec des niveaux qui étaient à peu près ceux-là, hein, Patrick, vous le rappeliez.
– Me semble-t-il, avait décliné assez…
– Alors, les dernières étaient… la dernière manifestation, la CGT revendiquait 3 millions de manifestants. Mmh. Donc, on était vraiment à une espèce de pic absolu. Mais il n'y avait pas eu de blocage du pays, comme aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas tant de grévistes que ça. Il n'y avait pas eu de violence, comme aujourd'hui. Et le gouvernement avait tenu. Et donc, je me demande si on n'est pas dans un scénario qui est à peu près comparable au scénario Woerth 2010.
C'est-à-dire qu'il faut encore s'attendre à une dizaine de journées de mobilisation.
Vous allez appeler à des nouvelles manifestations. Tout le débat est de savoir si c'est en semaine ou si c'est le samedi pour que ceux qui ne travaillent pas puissent participer en plus grand nombre le samedi. Mais donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet très compliqué pour le gouvernement. Il y a une petite fenêtre qui est celle-là. La vraie différence entre 2010 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le gouvernement et la majorité étaient unis. Ils savaient tenir. Aujourd'hui, on ne sait pas.
Mais il y a quand même un renouvellement des manifestants. Ça veut dire quand même qu'il y a un mécontentement populaire incontestable.
Il y a un mécontentement, bien sûr. Mais les Français n'ont pas envie de travailler plus de deux ans. Deux ans de plus. Ils n'ont pas envie.
Communication... Parce que j'avais l'impression que, vous voyez, que l'opinion n'avait pas une vision un peu particulière.
L'opinion est partagée.
Pour qu'on ne soit pas en contradiction.
L'opinion est partagée. L'opinion est hostile à la réforme, mais pense qu'elle va passer.
Oui, donc nous, on est hostile à la réforme, on pense qu'elle ne passera pas. Mais donc, lorsque vous avez 7 Français sur 10 qui sont opposés à la réforme, donc 93% des actifs, ça pèse et ça représente quelque chose. Et je pense que le gouvernement ferait bien de l'entendre.
Ouais.
Et si le gouvernement n'entend pas, je pense que les parlementaires, qui sont des élus de proximité, seront beaucoup plus sensibles à ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas dire que rien ne se passe.
L'objectif aussi, c'est d'entraîner le privé dans ces manifestations et dans ces grèves.
Encore plus qu'il y a aujourd'hui.
C'est un enjeu pour éviter que le mouvement ne patine.
Mais c'est un enjeu, mais vous savez, c'est 2 ans ferme pour tout, de plus. C'est 2 ans pour tout le monde. C'est pas que certaines catégories, c'est pas que le public, c'est l'ensemble des salariés du privé. Et puis, les reportages que vous avez fait dans les manifestations le montrent très clairement. Donc oui, aujourd'hui, il y a des tas de manifestants du privé qui prennent X solutions, parce que c'est pas facile de faire grève, pour venir dans les manifestations, y compris sur des jours de congé, sur des jours de récupération. Et ça, ça peut être comptabilisé. Par contre, ça se voit. Il y a une forte opposition qui s'exprime et sur une réforme qui est injuste et régressive. Et dont on ne sait pas à quoi elle servirait, quoi, exactement, si ce n'est à faire plaisir à Elon Musk, vous voyez, le patron de Twitter qui a licencié des milliers de salariés par tweet, ou encore le FMI, dont on connaît les politiques austéritaires. C'est ça les soutiens de la réforme aujourd'hui, ce n'est pas les salariés.
Elon Musk a pris position pour la réforme des retraites?
Oui.
Ah bon?
Officiellement?
Ben oui.
Ça nous avait échappé, on va vérifier tout de suite.
Vérifier, il n'y a pas de souci.
Elon Musk a officiellement pris position en faveur de la réforme des retraites en France?
Ben oui.
D'accord.
Pas de problème. Je crois qu'il avait fait un commentaire en disant qu'Emmanuel Macron avait raison.
Merci.
D'accord.
Donc Emmanuel ça, c'est bien prendre position.
Macron avait raison de mener cette réforme des retraites. La suite du mouvement, on entendait des élus, la France insoumise notamment, au NUPES, dire voilà, à quoi ça sert de se mobiliser une fois tous les 10 jours, de faire grève une fois tous les 10 jours, c'est un peu comme prendre un congé sans solde, mais on n'obtient pas forcément gain de cause de la part du gouvernement. Là, la CGT veut durcir le mouvement, la CFDT, elle, refuse de bloquer le pays. Ce point de divergence, ce qui pourrait mettre un terme à l'union au front syndical.
Divergence, je vous laisse le choix des mots et votre vision des choses. Hein. Vous verrez tout à l'heure, il y aura un communiqué unitaire de l'intersyndicale au grand complet sur les suites du mouvement. Et ce mouvement, il s'articule entre des grèves dans les entreprises parfois reconductible, mais c'est les salariés qui le décident. On n'a pas de bouton magique pour le déclencher, entre des tas d'initiatives qui ont eu lieu avant le 31, par exemple des retraites au flambeau. Je pourrais en citer d'autres d'initiatives. Donc la pétition aussi qui est massivement signée, puisqu'on atteint, on a dépassé les 870 000 ce soir, à l'heure où je vous parle, et qu'il faut continuer à signer. Donc tout ça, ça s'articule, ça s'ajoute, ça ne s'oppose pas, et c'est ponctué par des journées de mobilisation interprofessionnelle unitaire, et on verra sur les suites.
Des blocages, vous appelez, vous, à des blocages plus nombreux, plus importants ?
Ceux qui bloquent, enfin, les responsables du blocage, aujourd'hui, tout le monde le dit, y compris le soutien de la population à la mobilisation, c'est le gouvernement et le président de la République en premier lieu qui bloquent.
Une mobilisation qui, pour l'instant, se heurte à un exécutif qui a décidé de changer de ton. Le durcissement est très net. On les écoute.
Cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition.
Cette réforme est nécessaire. Nécessaire pour une seule raison. Nous avions dans les années 70 3 cotisants pour un retraité. Nous sommes aujourd'hui à 1,7 pour un retraité. Nous serons demain à 1,2 cotisants pour un retraité. Notre responsabilité, et c'est celle que nous allons tenir, c'est de sauver le système par répartition.
Il y a une tentative de conciliation, une négociation du gouvernement. Là, c'est terminé. Il n'y a pas d'autre choix que la fermeté pour le pouvoir en place ?
Je pense que c'est très compliqué pour un pouvoir en place ou pour quelqu'un qui négocie de dire, écoutez, voilà, on a quelque chose qui est compliqué à faire passer, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme amélioration. Ben, en face, les gens donnent des coups de boutoir, essayent de pousser pour que ça ne passe pas. Et donc, le gouvernement, et Elisabeth Borne en particulier, se rend compte que, à force de dire « j'attends vos améliorations », elle a nourri une forme d'opposition et le sentiment en face que tout était possible, y compris le fait de bousculer les grands éléments structurants de sa réforme, 43 annuités, 64 ans, âge légal. Et donc, je pense qu'il était temps, si le gouvernement veut appliquer sa réforme, était plus que temps que... On est à un langage de fermeté, je vous le redis, en 2010 comme en 2003, les réformes sont passées parce que le gouvernement disait « voilà où on en est, maintenant on vote ». ». Et il n'y avait pas… Alors la grande différence, évidemment, c'est qu'à l'époque, il y avait une majorité absolue. Et que là, il y a une majorité relative. Et que donc, Elisabeth Borne a été obligée en permanence d'aller chercher… de faire des contorsions pour dire « je vous écoute, je vous ai entendu, j'améliore ceci, j'améliore cela ». Il reste qu'à la fin, la réforme, elle doit amener à l'équilibre en 2030, et ce n'est pas gagné.
Ce qui amène Elisabeth Borne à dire dès dimanche, c'est non négociable, la suppression.
Mais ça n'avait jamais été négociable, vous savez. On a été aux concertations, il n'avait jamais été question pour le gouvernement de ne pas donc
reculer
l'âge de départ à la retraite, et on y rajoute là, y compris de rajouter une année de cotisation supplémentaire des 43 ans.
Oui, donc là, c'est un dialogue
de sourds. C'est la double peine. Ben oui, c'est-à-dire le deux sourds. Non, on a fait des propositions, nous, aujourd'hui, mais il n'y a pas que nous qui le disons. Le président du Conseil d'orientation des retraites, le COR, c'est inconstitutionnel, ce n'est pas la CGT, ce n'est pas les autres syndicats. Je pense qu'il fait autorité, vous pouvez hocher de la tête.
Il est très contesté.
Je pense que le président du COR, il y a un rapport qui est unanime. Et le rapport, il démontre bien ce qu'on le disait, que notre système de retraite n'est pas en danger, qu'il y a donc un déficit... mais que les dépenses sont globalement maîtrisées.
Et oui,
que
les dépenses, oui, mais comme les ressources se restreignent, ça fait un déficit.
Non, les ressources ne se restreignent pas, c'est le gouvernement qui les restreint. Lorsque vous faites des exonérations de cotisations sociales, vous restreignez les ressources. Lorsque vous permettez aux entreprises de licencier des salariés seniors, vous réduisez les cotisations pour financer les systèmes de retraite. Donc voilà, nous, on a fait des propositions sur ces points-là. Lorsqu'on augmente les salaires, c'est aussi des cotisations en plus. Lorsqu'on traite de l'inégalité femmes-hommes, lorsqu'on rétablit cette égalité, qui est loin d'être le cas aujourd'hui, puisqu'il y a un index pour les inégalités femmes-hommes, mais on voit très bien que c'est toujours 27% de salaire en moins pour les femmes et 40% à la retraite. On a fait des propositions sur ce sujet-là. Voilà. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas écouté. Donc, c'est par ça qu'il faut commencer. Ce n'est pas en repoussant l'âge de 2 ans pour l'ensemble des Français, des salariés, qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout du reste, y compris de mettre 44 années d'annuité pour les carrières longues.
Avant de donner la parole à Émilie, vous avez raison. Elon Musk a loué vendredi 20 janvier dernier la réforme difficile mais juste menée en France par Emmanuel Macron.
Ben juste, ils sont trois à le dire, le FMI, lui et le gouvernement.
Émilie.
Cette mobilisation, elle avait un nouveau visage, celui de la jeunesse, des lycéens aujourd'hui qui sont joints au mouvement. Alors ça pourrait paraître surprenant parce que les lycéens ne sont pas les premiers touchés par la retraite, mais certains interrogés semblaient assez concernés. Écoutez.
Le but du gouvernement, c'est de nous mettre au travail, au service du capital, le plus vite possible, avec la réforme de Parcoursup et des lycées professionnels qui met les lycéens le plus tôt possible au travail, mais aussi de faire travailler beaucoup plus longtemps, 2 ans de plus.
S'ils partent plus tard en retraite, leur travail, ils se libèrent plus tard aussi. Et du coup, pour nous, les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un travail, en fait.
Les infirmières, il y a 9 ans, elles partaient à 55 ans. Aujourd'hui, elles vont partir à 64. 9 ans de plus. Ces personnes-là qui vont partir plus tard, ce sont nos proches. Nous luttons aussi en solidarité avec les travailleurs. Mais aussi, cette réforme, elle va avoir un impact très concret tout de suite sur nous.
Nicolas Bétou, la mobilisation des lycéens, elle est toujours très surveillée par le gouvernement. Elle doit être prise au sérieux.
Oui, bien sûr. D'abord parce que c'est des gens qui sont relativement compliqués à contrôler. C'est l'image du tube de dentifrice, etc. Je ne vais pas la reprendre. Mais je pense qu'il y a deux populations différentes. Il y a ce jeune qu'on a entendu qui, manifestement, est un militant politique.
Syndicaliste.
En tout cas, sûrement très politisé. Et je ne le vois pas atteint au cœur de son angoisse personnelle sur qu'est-ce que je ferai dans 42, 43, 44 ans. Je pense qu'on n'en est pas là. En revanche, il y a sûrement des gens qui, rentrant dans la vie active jeune, tôt, se disent, bon, est-ce que je dois travailler 43 ou 44 années de plus ? Moi, je ne sais pas où vous en étiez lorsque vous avez commencé la vie du travail, mais j'ai pas beaucoup de copains qui se projetaient en se disant, plus 43 ans et demi, plus de 43 ans, plus que 42 ans et demi. Voilà, je pense que là, on est dans une posture qui est celle de soit de la politique, soit de gens qui ont une espèce de conscience de leur vieillesse, qui, moi, en tout cas, m'étonne aujourd'hui.
Enfin, c'est des propos très réducteurs, je trouve. Enfin, que les jeunes se conscientisent. Parce qu'on voit bien que cette réforme des retraites, c'est bien notre socle social, notre modèle de société qui est attaqué là-dessus. C'est bien ça qui est attaqué.
Oui, c'est le travail.
Donc, que les jeunes,
le travail, c'est autre chose.
Parce qu'on peut travailler.
C'est pas autre chose.
On peut travailler tous en travaillant moins, puisqu'on porte nous les 32 heures avec la retraite.
Le partage du travail, ça n'a pas très bien marché quand même.
C'est pénible. Si, ça marche.
Les 35 heures, ça n'a pas très bien marché.
Écoutez, y compris des entreprises aujourd'hui qui expérimentent les 4 jours avec des semaines de 32 heures. Voilà. Donc, et ça marche. Il y a des pays qui le font aussi en Europe. Ça fonctionne. Comment non ? Si, ça fonctionne. Enfin, tout à l'heure, vous me donniez tort sur
J'avais raison.
Il y a des pays en Europe qui expérimentent
les 32 heures. Je ne sais pas si on doit débattre sur le temps de travail, mais la France est le pays qui, en durée hebdomadaire et en durée de la vie entière, travaille le moins. Et comme le disait Patrick, on a un sujet qui est qu'on fait rentrer moins de recettes alors qu'on continue à dépenser davantage. Bon, ben voilà, il y a un moment où ça ne fonctionnera plus. Ça n'a rien à voir,
parce que la productivité est plus élevée et où on dépense. Parce que là, il faut revenir au premier propos de Macron là-dessus. Cette réforme des retraites, il faisait un package, comme la communauté européenne, sur les dépenses publiques. Or, on confond tout là-dessus, on est sur des cotisations. Les dépenses publiques, c'est quoi ? C'est aujourd'hui les 157 milliards d'aides qui sont données aux entreprises, les plus grandes, c'est une réalité, les plus grandes, sans aucune contrepartie, ni aucun contrôle sur le sujet. Donc voilà, là, c'est la problématique.
Une réponse là-dessus et puis...
Non, mais c'est le schéma traditionnel. Si vous voulez, on est un pays qui est le plus taxé de toute l'Europe, le plus de tous les pays. Et dès qu'on baisse le niveau des taxes, la CGT et d'autres, l'opposition actuelle dit on fait des cadeaux. Ben non, on essaye de revenir à un niveau moyen qui est celui de l'imposition moyenne.
Lorsque les entreprises licencient en ayant bénéficié d'aide publique,
dans les pays d'Europe,
c'est bien cadeau.
La bataille, elle se joue dans la rue, mais aussi depuis hier à l'Assemblée nationale en commission des affaires sociales où a débuté l'examen du texte. Et aujourd'hui, la question de l'emploi des seniors s'est posée avec un exemple cité par Sandrine Rousseau qui peut surprendre. Oui.
Qu'est-ce que vous voulez en réalité ? Vous ne voulez pas l'emploi des seniors. Vous voulez mettre des personnes qui sont assez âgées au chômage, dans certains cas, sous-rémunérées, pour être obligées d'accepter des emplois qui sont en dessous de leur niveau de compétence.
Alors là, on a une vision hallucinante du travail. Dans mon territoire qui est industriel, le taux de chômage, il est autour de 5%. Et comme il y a une vraie demande en emploi, il y a des rémunérations qui sont largement augmentées parce que les entrepreneurs cherchent des compétences. Et donc, ça fait un vrai appel d'air sur, y compris, des emplois seniors.
Regardez ce qui se passe dans notre pays en termes de taux de chômage. Ça vous irrite, je le comprends, mais nous sommes en pénurie d'emplois dans nombre de secteurs. Et vous croyez que du coup, on n'a pas envie de garder nos seniors ?
Eh bien, je m'interroge, moi, que va faire Mbappé après 50 ans ? Et que va-t-il faire ? Je ne sais pas si Emmanuel Macron, au moment où il faisait des papouillets à Mbappé, lui a parlé de sa carrière et de sa carrière quand il serait senior.
Ça, Mbappé, dans le débat sur la réforme des retraites, on ne l'avait pas vu venir.
Je pense qu'il a une petite retraite par capitalisation, comme on dit.
Donc, ce n'est pas pour lui qu'il faut s'inquiéter. Vous avez des nouvelles de l'intersyndicale et de la prochaine journée de mobilisation?
Pas encore.
Pas encore.
Moins pas encore à bon. Pouvoir annoncer officiellement, mais un peu de patience.
Bon,
et
très bien.
L'intersyndicale dira ce qu'il en est.
Merci beaucoup Fabrice Angélil, secrétaire confédéral de la CGT, d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. Un autre sujet d'actualité, les médecins l'appellent le phénomène des lapins, les rendez-vous médicaux non honorés par des patients. C'est pas nouveau, mais ça se banalise avec un total de 27 millions de lapins posés aux médecins par an, avec en Ile-de-France, par exemple, une moyenne déclarative de 2 rendez-vous non honorés par jour. C'est parfois plus du double. Le temps médical manque et on le gâche. Ça, c'est le constat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de l'Académie nationale de médecine.
Vous voyez ce jour-là, donc c'était mercredi, et on voit en fait 3 créneaux qui ont été annulés. Et en fait, ils ont été annulés 5 minutes avant le rendez-vous, donc personne n'a pu se placer au niveau de ces créneaux-là. C'est surtout un manque de respect par rapport aux autres citoyens qui n'ont pas de rendez-vous médicaux dans la journée. Je pense notamment à des bébés qui ont 42 fièvres, où probablement j'ai dû les refuser puisque je n'avais plus de place.
C'est un peu l'ubérisation de la médecine, mais en fait, on prend un rendez-vous, on oublie de l'annuler, on en prend un autre parce qu'il est à côté de chez nous, plus proche, et voilà. Et ça, c'est très compliqué à gérer pour nous au quotidien.
C'est un manque de respect, c'est un manque de...
C'est pas normal, quoi.
De politesse.
Il faudrait qu'il y ait une pénalité, au moins pour les gens qui régulièrement font ce genre de choses.
Bonsoir, Jimmy Mohamed, qui fait une entrée à vous.
Vous aviez posé un lapin.
Plus que ça.
Sur ce sujet, oui. Ça
tous les jours, aux côtés de Marina Carrère dans Cause, dans le magazine de la santé de France 5, médecin généraliste pour SOS Médecin, et donc aujourd'hui collectionneur de lapins, comme à peu près tous les professionnels de santé.
Complètement, et c'est vrai que là, on parle des médecins, mais on oublie que toutes les professions médicales et paramédicales subissent ce phénomène. Les médecins généralistes, évidemment, puisque c'est les médecins de première ligne, les médecins spécialistes, qu'ils soient rhumatologues, pédiatres, mais aussi les infirmiers, les kinés, les sages-femmes qui sont victimes aussi de ces lapins dans une période où, vous l'avez dit, on manque de temps médical. C'est pas comme si on pouvait se permettre le luxe de gâcher même 5 ou 10% des rendez-vous médicaux.
Vous, c'est en moyenne 2 rendez-vous non honorés par jour et, comme par hasard, celui du matin et celui du soir.
Ouais, c'est très souvent. Il n'existe pas un jour où, lorsque je suis en consultation, notamment ce qu'on appelle la permanence de soins, le soir et les week-ends, le samedi et le dimanche, à des moments où, très honnêtement, je serais mieux à la maison avec mes enfants, mais à SOS Médecins, on exerce comme ça, on travaille le dimanche. Et très souvent, le premier des rendez-vous, eh bien, le patient n'est pas là. Ou le dernier des rendez-vous. Au moment où on va attendre, on est content de rentrer à la maison, eh bien, malheureusement, les patients ne viennent pas. Et lorsqu'on les appelle, c'est systématiquement la même réponse. Ah, désolé, je ne savais pas, j'ai oublié, le petit s'est rendormi. En fait, on a déresponsabilisé les patients. Sauf que derrière,
Ils s'en fichent.
Je pense que, dans le fond, ils s'en fichent, si on est très honnête. Parce que finalement, on l'a dit dans le reportage, ubériser la médecine. Il n'y a plus tellement le respect du médecin, du soignant qu'on avait à une époque où, lorsqu'on prenait rendez-vous, on allait voir la secrétaire, on demandait un rendez-vous. Et si on ne venait pas, le jour où on revenait, eh bien, on avait honte face à la secrétaire. Désormais, en quelques clics, vous prenez un rendez-vous, de la même manière que vous allez commander un plat. Mais il ne viendrait pas l'idée de commander 3 plats à la fois pour voir lequel arriverait le premier. Pourquoi ? Parce que vous payez le plat. Sauf que lorsque vous prenez rendez-vous, eh bien, on ne vous engage à rien. Juste de cliquer et de promettre que vous allez venir.
C'est peut-être pas aussi parce qu'aussi, il manque de rendez-vous, il manque de médecins, c'est difficile de trouver un rendez-vous. Donc, d'une façon un peu prévoyante et certainement égoïste, hein, on prend des rendez-vous qu'on oublie d'annuler, quoi, en quelque sorte.
Qu'on ne devrait pas oublier d'annuler, surtout dans une période où on sait que si vous prenez un rendez-vous, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être que quelqu'un qui a vraiment besoin de ce rendez-vous, bah, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va attendre dans l'angoisse, il va peut-être prendre les mauvais médicaments ou se retrouver aux urgences, dans une période où les urgences sont sous tension. Donc en fait, lorsque la médecine de ville est surchargée, on va encombrer l'hôpital, ça va coûter plus cher à la collectivité. Et puis on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un manque à gagner pour les professionnels de santé, les médecins libéraux, mais les infirmières, les sages-femmes, ils n'ont pas de salaire. Et quand ils viennent et qu'ils font parfois garder leurs enfants, eh bien c'est au détriment de leur famille pour un patient qui ne vient pas. Donc il y a aussi une perte de chiffre d'affaires pour les professionnels. Et on parle des médecins. On n'est pas à plaindre, honnêtement, financièrement, on ne va pas se mentir par rapport au reste de la population. Mais il y en a d'autres, des kinés qui galèrent aussi, les infirmières, les sages-femmes qui sont à 25 € pour un temps beaucoup plus long de consultation, ou des spécialistes qui, par exemple, vont bloquer 30 minutes. Vous avez rendez-vous chez un rhumatologue pour une infiltration, le rendez-vous chez le pédiatre, on manque de pédiatres, on le sait, c'est des rendez-vous plus longs. Et donc le pédiatre, qu'est-ce qu'il va faire ? Soit du surbooking, donc il va mettre ce stress en se disant « j'espère qu'il y en a un ou deux qui annulent, c'est pas une façon de consommer la médecine », ou alors il va attendre dans une période où on manque de soignants. Et donc il faut faire quelque chose. L'appel à la responsabilité, à mon sens, c'est illusoire de croire que ça changera quelque chose.
C'est-à-dire, il faut aller jusqu'à facturer les consultations non honorées. Ça, le code de santé publique ne le permet pas aujourd'hui. Mais il faut le changer.
Ça se fait dans les restaurants.
Ouais, ouais. Ouais,
les restaurants, oui, ça, on prend une empreinte.
Peut-être faut faire ça, mais sinon il y a un autre système. Les chauffeurs Uber sont notés par les passagers. Bon, vous parliez de l'ancien temps où il y avait une secrétaire qui prenait un rendez-vous et qui, lorsque deux ou trois rendez-vous du même patient avaient été annulés, avait un peu de mal à trouver un bon créneau pour la prochaine fois qu'il souhaitait consulter. J'imagine que Doctolib peut très bien...
Noter les patients
mettre des notes sur la ponctualité des patients ou sur le fait que quelqu'un a annulé une fois, deux fois, trois fois. Le médecin se dira... Celui-là, peut-être que je ne vais pas le caler au moment où... etc. Hein.
On risque de créer de nouveaux comptes avec d'autres identités, venir à la place de quelqu'un d'autre. Les gens sont très astucieux, il ne faut pas croire qu'ils ne vont pas s'adapter. Ouais. Et puis en plus de ça, on va perdre encore combien de rendez-vous médicaux? Deux ou trois? Le mode de consommation de la médecine a évolué. On consomme de la santé différemment. Peut-être qu'il faut faire évoluer...
gratuit, vous le disiez.
Il n'y
a pas de pénalité
Il faut facturer les consultations d'un honoré.
Moi, je pense qu'il faut... Peut-être que le cadre évolue, mais se dire que s'il y a la peur de la sanction financière, vous mettez une empreinte bancaire, ça ne veut pas dire que vous allez être sanctionné. Vous serez sanctionné uniquement si vous ne venez pas. Par conséquent, peut-être que vous réfléchirez deux fois avant de prendre un rendez-vous que vous n'allez pas honorer. Donc en fait, cette crainte qu'on pourrait avoir de se faire encaisser, elle pourrait peut-être juste
suffire
à ce que les gens réfléchissent deux fois. Et ce n'est pas pour autant que les médecins, on a envie d'annuler des rendez-vous. Nous, on est content de soigner des malades. Et on peut comprendre qu'il y a parfois des imprévus, que finalement, il y avait des embouteillages, une manifestation. Et on n'est pas là pour bloquer les gens, mais de se dire, les gens vont réfléchir deux fois et on va les responsabiliser pour de vrai. Je pense que malheureusement, ça passe au travers de peut-être de leviers financiers, même si c'est parfois difficile à entendre. Mais en tout cas, c'est la demande des praticiens.
D'autres sujets à vous soumettre?
Une annonce qui a un peu passé inaperçue vu l'actualité, mais on a clairement tourné une page sur le front du Covid. Trois ans après le début de l'épidémie, avec moins de 5000 cas par jour, le ministère de la Santé va mettre fin dès demain aux mesures de restriction qui étaient en place depuis deux ans. Donc dès demain, plus besoin de s'isoler cinq jours après un test positif, plus d'obligation pour les cas contacts de se faire tester deux jours après avoir croisé une personne contaminée, plus de fichiers pour tracer les cas contacts par l'assurance maladie. D'ailleurs, désormais, pour obtenir un arrêt maladie pour Covid, il faudra aller voir le médecin. C'était logique, ça, le Covid, c'est devenu un virus comme les autres?
Ça fait longtemps qu'on a tourné la page. Quand on regarde la couverture vaccinale, on se rend compte que les plus de 70 ans sont seulement un quart à s'être fait vacciner avec la dose de rappel. On a beaucoup parlé du nouveau vaccin disponible, donc ça fait un moment finalement qu'on a tous tourné la page et fini l'époque où on avait peur, où on va désinfecter les légumes avec de l'eau de Javel. Désormais, même lorsqu'on est malade, on ne porte pas de masque. Et quand on voit ce qui se passe dans les transports en commun, les Français, d'une façon générale, ont tourné la page. Donc il était peut-être logique d'assouplir certaines règles tout en gardant dans un coin de la tête que c'est peut-être temporaire. Et d'ailleurs, dans cette note du ministère de la Santé, en bas de page, vous avez dit jusqu'au prochain événement, à l'hiver 2023-2024.
Oui, une nouvelle vague n'est pas à exclure non
plus. Ce n'est pas la fin du Covid, c'est peut-être la fin de cette vague-là, ou du Covid tel qu'on a pu le connaître jusqu'à présent, sans oublier que des personnes fragiles, immunodéprimées, continueront malheureusement d'être hospitalisées d'une maladie pour laquelle on a un moyen de protection, qui est le masque, pour laquelle on a un vaccin qui est efficace, et il faut le rappeler, très bien toléré. Les effets secondaires qu'on nous avait promis avec l'apocalypse il y a deux ans ne sont pas arrivés. Le vaccin, il marche bien sur les formes graves. Et puis, on a un traitement efficace qu'on appelle le Paxlovid, un traitement antiviral qui est très peu utilisé. Donc, il va falloir se baser sur ces trois axes, tout en gardant dans un coin de la tête que le Covid, c'est peut-être fini temporairement, mais on va vivre avec, d'une façon un peu différente, avec cette incertitude de patients qui vont faire des Covid low, qu'on ne va pas bien comprendre, des malades qui vont se retrouver à l'hôpital, qui vont quand même être hospitalisés. Dans un moment où on manque de soignants, on va peut-être emboliser d'une façon supplémentaire l'hôpital, donc voilà, on tourne une page, mais peut-être que c'est que transitoire.
Selon une enquête de nos confrères de RTL, aujourd'hui, il manque 60 000 infirmières et infirmiers en France. À titre de comparaison, en 2020, il en manquait 7 000. Et le grand paradoxe, c'est qu'il y a 180 000 diplômés de ces métiers qui n'exercent plus. Et la grande majorité se sont reconvertis. C'est le cas, on va l'entendre, de Maëva, qui a exercé pendant 10 ans à l'hôpital et en libéral, souvent de nuit. Et il y a un an, elle a décidé d'arrêter définitivement son métier.
J'en avais marre d'être entourée de la souffrance, de rentrer chez moi, d'être triste. Ça m'arrivait de pleurer parce que la nuit a été horrible. La mort, c'est une chose, mais la souffrance, je pense que ça choque pas mal. Moi, en tout cas, ça a été mon cas, ça m'a beaucoup choquée. La nuit, forcément, le corps est en décalage constamment, donc on est plus fatigué. Au niveau social, hein, on voit moins nos amis, on passe moins de temps en famille aussi. Et puis si on se prend pas en charge au niveau psychologique, je pense que ça peut... tourner comme en burn-out, dépression. Ouais. J'ai envie d'avoir plus de joie et de sérénité dans ma vie.
C'est un sujet que François Braun, en présentant ses vœux hier, a évoqué assez précisément.
L'année 2023 sera celle des infirmières et des infirmiers, celle de perspectives clarifiées. Je refuse de me résoudre à ce qu'autant d'étudiants infirmiers abandonnent leur cursus. Nous travaillerons sur la sécurisation des parcours et la qualité de vie étudiante. Aussi, nous libérerons les voies d'accès à ce métier. À ce titre, un appel à manifestation d'intérêt sera lancé au premier semestre pour susciter des formations réalisées à 100% en apprentissage.
C'est une bonne première voie.
Il faut sortir le carnet de chèques.
Ouais.
Bon, voilà, là, on parle d'une infirmière de nuit. Il faut bien garder dans un coin de la tête que lorsque vous travaillez de nuit, plus de 3 jours par semaine, pendant plus de 5 ans de votre vie, là, elle a travaillé 10 ans, vous avez un sur-risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, de cancer, pour une prime de quelques euros par mois, finalement. Donc, en fait, on ne paye pas suffisamment les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ceux qui restent, ils vont saturer parce qu'ils vont faire absorber la charge de travail de ceux qui sont partis. Et ils vont craquer à leur tour. Avec la conséquence, derrière, ce n'est pas simplement les infirmières, c'est les Français, puisque malheureusement, on ferme des lits actuellement, puisqu'on manque d'infirmières. C'est dramatique, ce n'est même pas des coupes budgétaires. J'ai vu un enfant, 12 ans. Il a été hospitalisé via les urgences puisqu'il avait des pensées suicidaires. À 12 ans, il a verbalisé auprès de ses parents « je veux me jeter par la fenêtre ». Ses parents le conduisent aux urgences d'un centre hospitalier universitaire en Île-de-France. Il reste toute la nuit, il doit être hospitalisé, il va devoir attendre une semaine à la maison. Ils lui ont mis des tranquillisants pour qu'il reste tranquille, car pour un enfant de 2 ans qui souhaite se suicider en pédopsychiatrie, nous n'avons pas de place. J'ai essayé d'appeler d'autres confrères dans d'autres hôpitaux, ils m'ont dit « on a exactement la même chose ». Nous sommes en sur-régime et j'ai encore, c'est un confrère qui m'a dit ça, 5 patients à hospitaliser avec des idées suicidaires qui ont verbalisé un passage à l'acte. Donc on en est là, on parle du parent pauvre, de la médecine, de la psychiatrie, mais la pédopsychiatrie c'est la même chose. Et on a exactement les mêmes problématiques, quel que soit le service, les unités neurovasculaires, ceux qui prennent en charge les accidents vasculaires cérébraux. Un quart à la moitié des lits sur Paris sont fermés parce qu'on manque d'infirmières, on en est là. Donc le Ségur a permis quand même une amélioration, mais ce n'est qu'un rattrapage. Et donc, on aura beau faire des Ségurs, des discussions, je pense qu'il faut mieux les payer tout simplement, très rapidement, même si ce n'est pas leur seule demande. Ils demandent d'être mieux considérés, l'accès au logement, l'essence coûte 2 euros le litre, donc c'est compliqué, on travaille loin, c'est pénible. Donc, mais il va falloir faire quelque chose parce que derrière, ça va vraiment, vraiment très mal se passer, mais pour les Français.
Il faut sortir le carnet de chèques, Nicolas Bétou.
Il faut sortir le carnet de chèques. Il a été sorti, comme dit le docteur Mohamed, 7 milliards de coûts supplémentaires pour les salaires depuis le Ségur de santé, par an, hein, ce qui est colossal. Moi, je rappelle juste un chiffre qui avait été donné par plusieurs de ses prédécesseurs, mais la dernière fois par Agnès Buzyn, lorsqu'elle est arrivée au ministère de la Santé, elle avait dit qu'il y a 30 milliards d'euros de gâchis par an dans les hôpitaux. La mauvaise organisation, la redondance des tâches, les examens superfétatoires, 30 milliards d'euros. Et ces 30 milliards, ils sont toujours là et toujours mis à la poubelle tous les ans.
Bon, c'est l'objet d'un autre débat. Merci beaucoup, Jimmy Mohamed. Vous restez avec nous. On vous retrouve du lundi au vendredi dans le magazine de la Santé. C'est à 13h40 sur France 5, aux côtés de Marina Garadankos. Et puis, demain, sort votre ouvrage, Zéro contrainte pour maigrir. Surtout, ne faites pas de régime.
C'est une
vraie
promesse.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est à paraître aux éditions Flammarion. Vous restez tous les deux avec nous. C'est la story de Mohamed Bouamsi. Mohamed, une star de YouTube, a décidé de rendre la vue à des Américains.
Oui, des Américains qui l'appellent désormais le bon samaritain ou l'homme qui redonne foi en l'humanité. Avant de vous expliquer pourquoi il est devenu le chouchou de tous les États-Unis, je vous présente MrBeast, de son vrai nom, Jimmy Donaldson. À 24 ans, il est le YouTuber le plus connu au monde, avec 130 millions de followers, ce qui l'a fait connaître des vidéos de ses défis les plus fous diffusés sur sa chaîne.
Voilà un abonné au pif. S'il reste dans le cercle pendant 100 jours, je lui donnerai 500 000 dollars. La personne qui retirera sa main en dernier de ses voitures à 300 000 dollars pourra la garder. J'ai dépensé 2,5 millions de dollars pour acheter ce jet privé et j'ai fait venir 11 youtubeurs pour qu'ils posent leur main dessus. Celui qui gardera sa main le plus longtemps gagnera le jet privé. Si vous êtes le dernier à retirer votre main de cette caisse d'1,000,000 de dollars, vous la gardez. J'ai acheté une île privée gigantesque et je vais la donner à l'un d'entre vous dans cette vidéo. Donc j'ai fait venir 100 personnes parmi mes abonnés pour qu'ils participent à 4 challenges extrêmes. Le dernier dans la course gagnera cette île.
Avec des revenus estimés à 54 millions d'euros par an, MrBeast réalise désormais des vidéos à but philanthropique traduites dans le monde entier. Une super production à lui tout seul.
Posar na Antártica e vamos passar 50 horas aqui.
Anh ôm được bao nhiêu tiền thì cứ lấy bấy nhiêu nha. Tôi không quan tâm việc anh nhét tiền vào túi, áo hoodie hay quần hay giày của anh luôn.
Em 10 тысяч долларов. Тот, кого я найду последним, оставит их себе.
في العالم وسنقوم بإزالة كل القمامة الموجودة على هذا الشاطئ.
Mais MrBeast ne se contente pas de jouer avec de l'argent, d'en encaisser et d'en distribuer n'importe comment. Dans sa dernière vidéo, il a décidé de mettre en lumière le travail d'un ophtalmologiste, Jeff Levinson, spécialiste des traitements de la cataracte. À travers cette vidéo, les deux hommes ont voulu sensibiliser à cette maladie qui entraîne une perte de la vision pouvant aller jusqu'à la cécité totale. Une maladie qui peut pourtant se soigner.
Ils voient très mal, mais on est capable de corriger leur vue.
Oui. La moitié des malvoyants ont seulement besoin d'une intervention de 10 minutes.
C'est dingue. Si vous vous demandez comment c'est possible, c'est parce qu'on opère ces gens dont le cristallin est devenu opaque et est à l'origine de la mauvaise vue. Le chirurgien utilise alors un petit aspirateur pour le retirer de l'œil du patient.
Waouh, ça aspire.
Et il le remplace par un cristallin artificiel. On a décidé de pas seulement aider les malvoyants aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Parce que malheureusement, près de la moitié des personnes malvoyantes qui pourraient être guéries n'ont tout simplement pas accès à l'opération. Donc j'ai voulu qu'un maximum de personnes puissent en profiter.
En France, l'opération est partiellement remboursée. Ce n'est pas le cas aux États-Unis où cette chirurgie est très coûteuse. MrBeast a donc décidé d'offrir l'opération à 1000 personnes. 1000 personnes toutes en situation de précarité qui ont retrouvé la vue ou vu distinctement pour la première fois.
Oh my God. I see everybody.
Oh, I can see clear. I can jump for joy.
Yeah, I see your face, I see your face, I see your face.
No cloudiness, no blurriness.
Oh, it's perfect.
Now, what's it like?
I can see everything.
I don't need these.
L'un des moments les plus émouvants de cette vidéo, un père qui rêvait de revoir les traits de son fils qu'il n'a pas vu grandir.
The first thing you wanted to see was your son.
Seeing him, seeing his face, that's what I miss.
All right.
Oh my God, man.
There you go.
Don't cry. I can see everybody's facial features now. It's a little blurry with my tears coming out.
À l'heure où nous parlons, cette vidéo atteint les 60 millions de vues dans le monde. Le seul problème avec MrBeast, c'est qu'on est toujours un peu dans l'excès. Il a offert une Tesla à un aveugle qui rêvait de conduire et qui a retrouvé la vue grâce à lui.
Ah. Voilà. Donc
toujours un petit défi en plus avec MrBeast.
D'accord. Merci
Dis-tu
beaucoup.
Dis-tu que je suis prêt à rester à peu près une petite année dans son cercle.
Merci Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Pas même une demi-heure.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Un basketteur français visé par des propos racistes dans les tribunes.
Oui, on est en plein match de National 2 de basket. Hein. C'est la 4e division. Loïc Akono joue pour l'équipe de Metz à Charleville-Mézières. Et il est au sol quand un spectateur lui crie « Relève-toi, bonobo ». On n'entend pas le supporter sur la vidéo, mais la scène est filmée.
On a mal en dessous du genou. Akono qui reste au sol. Ah, un petit échange de coups de boule, j'ai l'impression, involontaire, bien sûr. Et Loïc, avec le sourire, qui chambre le public.
Sauf que Loïc Akono ne s'amusait pas avec le sourire avec le public, il ne chambrait pas. C'est de la colère que vous venez de voir. Il affirme qu'un spectateur l'a qualifié de bonobo. Il a quitté le terrain ensuite.
C'est sur une action où je plonge sur un ballon. Relève-toi, bonobo. Donc, j'ai voulu parler avec ces gens-là dans le public. Enfin, j'ai voulu leur dire mon ressenti. Et l'arbitre m'a menacé de mettre une technique, que ça allait se retourner contre moi. J'ai décidé de sortir du terrain. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que derrière, l'arbitre me menace. Et moi, je vais me faire sanctionner parce que je me suis fait insulter de bonobo. C'est... J'ai juste pas les mots, en fait. Je sais pas.
Le syndicat de joueurs de basket s'est dit solidaire du joueur dans un communiqué. Stop au racisme, écrit l'Union des basketteurs professionnels. Le syndicat qui rappelle le rôle de tous les acteurs du sport, y compris les arbitres. Or, Loïc Akono est resté choqué de la réaction de l'arbitrage, de l'arbitre qui a menacé de le sanctionner. Anaïs Recoulier et Valentin Tibier sont allés sonder la Fédération française de basket aujourd'hui.
Normalement, l'arbitre est censé arrêter le jeu. Mais est-ce qu'il a réellement entendu ce qui s'est passé? J'en sais rien. Donc on doit les écouter, puis on doit à un moment donné apprécier la situation. Je pense que le ou les arbitres ont cherché à le calmer pour que le match se déroule. Alors que si effectivement les arbitres n'ont pas entendu cette agression verbale, ça me paraît logique qu'ils réagissaient comme ça. J'ai décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire. Donc ce dossier disciplinaire va, j'espère, être traité rapidement, j'espère sous une quinzaine de jours, pour que la vérité soit faite et qu'on puisse à un moment donné prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas à moi aujourd'hui de dire si les arbitres ont mal fait ou bien fait leur travail. L'important, c'est d'essayer de connaître la vérité et entendre tout le monde dès la semaine prochaine.
La fédération a décidé d'ouvrir un dossier disciplinaire, donc choix salué par la ministre des Sports qui a également apporté son soutien au joueur Loïc Akono. Il a, je cite, « refusé l'inacceptable en quittant le terrain. Le racisme, les discriminations et la haine n'ont pas leur place sur nos terrains et dans nos tribunes », écrit-elle.
Il est également question de racisme aux États-Unis où l'on s'indigne après une bavure policière.
Oui, de nombreuses manifestations, en particulier dans le Tennessee, à Memphis, un homme de 29 ans noir américain, Tyree Nichols, plaqué au sol, est passé à tabac lors d'un simple contrôle routier. Les faits remontent au 7 janvier, mais c'est la caméra piéton des policiers et la vidéosurveillance qui viennent de choquer les Américains.
Bro, lay down.
I'm just trying to go home.
Lay down. Man, if you don't lay down.
Oh, I am on the ground.
Put your hand on your stomach.
Hey, Mike, get
out of here, bro.
Watch out, watch out.
Watch out.
Oh.
Coup de genou, coup de pied, lacrymogène. Il y a aussi des images de l'homme au visage tuméfié, couvert de sang. Il mourra 3 jours après à l'hôpital. Des marches et manifestations étaient organisées ces derniers jours, le week-end en particulier. Quand on précise que les policiers étaient noirs, eux aussi, comme la victime, les manifestants n'y voient qu'une preuve supplémentaire d'un problème plus systémique aux États-Unis.
I grew up in the United States, so I've seen enough trauma on the TV like it's cartoons. It's too much. It shouldn't be like that. You know, other countries, they care about people. There's countries where people aren't getting shot on the street like this.
No matter what the video shows, Miss Wells lost her son. I lost my son. Miss Blake lost her son. There's a lot of moms running around in D.C., Georgia, California, Philadelphia. We're losing our kids.
The reason why this is still a racist police killing, despite the black officers, is because policing as an institution in the United States is inherently racist.
De nouvelles manifestations se tenaient hier encore. Les violences policières, le racisme policier remis à la une aux États-Unis quelques jours seulement après la diffusion d'une autre vidéo, celle de l'arrestation de Keenan Anderson à Los Angeles début janvier. Noir américain de 31 ans décédé lui à l'hôpital après son arrestation également, alors que ce dernier criait « Ils vont me faire une George Floyd ».
Turn over, I'm gonna tase you.
Bitch. I can't. You're trying to George Floyd me. You're trying to George
Stop
Floyd
it. Me. Stop it, I'm gonna tase you. I'm gonna tase him.
You're trying to kill me. You're trying to kill me. Give me low.
Oui, Washington qui ne veut pas livrer d'avions de combat F-16 à l'Ukraine.
Oui, vous allez entendre le président américain. C'est bref, la question comme la réponse.
Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président.
Non, point. Ça a le mérite d'être clair. Le débat autour des livraisons d'armes après les chars, les avions de chasse dans le débat, alors que Volodymyr Zelensky reconnaît que ses forces font face à une armée russe qu'il qualifie lui-même de revancharde.
Russia really wants some big revenge. I think it has already started. I think they will not succeed in providing their people with positive results in offensive. I am confident in our army. I think we will be gradually stopping them, fighting them, and will be preparing our own big counter-offensive.
Côté européen, le ministre ukrainien de la Défense était en France aujourd'hui. Il a rencontré Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Il devait s'entretenir avec Emmanuel Macron également. Mais pour ce qui est des avions de chasse, Emmanuel Macron a répondu hier sans être clair. Finalement, la même réponse et les mêmes précautions que pour les chars.
Par définition, rien n'est exclu. Nous n'avons pas ces demandes aujourd'hui formulées. Mais à chaque fois qu'il y a des demandes, on les considère et on regarde aussi ce qui est utile et ce qu'on peut faire et dans quel délai. Rien n'est interdit par principe. Et donc, c'est en fonction des demandes qui sont formulées, mais pas en fonction des bruits qui courent.
La France annonce toutefois l'envoi de 12 canons César supplémentaires. Ils viennent s'ajouter aux 18 déjà envoyés et utilisés sur le sol ukrainien.
Non pour les États-Unis pour ces avions F-16, peut-être à voir pour la France.
Je pense que Joe Biden a raison. Depuis le début, il gère bien le fait de ne pas s'approcher trop près de la limite infranchissable qui le donnerait...
Elle ne fait que reculer, cette limite.
Oui.
Oui, mais qui le transformerait en co-belligérant. Les avions, c'est fait pour se projeter sur d'autres territoires. Ils ne sont pas faits pour tourner au-dessus de l'Ukraine, si jamais ils vont en Ukraine. Et donc, ce serait une menace très grave. Par ailleurs, pour ce qu'on voit, en tout cas, du front aujourd'hui, les avions ne volent plus sur les territoires des autres. Ce qui vole, c'est les drones et c'est les missiles. L'aviation, elle est en fait clouée au sol. Et c'est d'ailleurs une leçon intéressante pour les stratégies des armées modernes. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des chars très lourds pour percer la défense qui est établie telle qu'elle l'est aujourd'hui, dans les différents territoires, le Donbass en particulier. Les chars très lourds, parce qu'ils sont supérieurs à ceux de l'ennemi d'en face, les Russes, peuvent détruire et percer. On installe l'infanterie, mais les avions, dans ces moments de guerre, ne serviraient à rien, sauf à faire peser une menace supplémentaire sur la Russie. On n'en a peut-être pas besoin en ce moment.
L'Australie s'inquiète. Une entreprise minière admet avoir égaré une capsule radioactive.
Oui, un fragment de césium-137, matière hautement radioactive, égarée. C'est aussi bête que ça. Le géant minier, la multinationale anglo-australienne Rio Tinto, devait transporter cette capsule sur un trajet de 1400 km entre Newman et Perth, à l'ouest du pays. Et c'est sur ce tracé qu'on est en train de chercher. Une capsule de 6 mm sur 8. En fait, on est en train de chercher un petit poids sur une route longue comme le chemin de Brest à Nice, mais un petit poids extrêmement radioactif, autant vous dire. Et c'est un euphémisme que ça inquiète les autorités sanitaires sur place.
And ideally stay at least 5 meters away. Do not touch this item if you believe it is the source. Don't put it in a bag, don't put it in your car. Our concern is that somebody will pick it up, not knowing what it is, think, oh, this is something interesting, and, you know, keep it, put it in their room, keep it in the car, give it to somebody else, not knowing what they are actually dealing with.
Il s'agit surtout, vous l'avez compris, hein, d'empêcher quelqu'un de la ramasser, de la ramener chez lui sans le savoir. La perte n'a été révélée que vendredi, alors qu'elle remonte au 12 janvier. Les autorités australiennes cherchent désormais cette petite capsule égarée en chemin. L'entreprise Rio Tinto a présenté ses excuses pour le moment, mais ne s'explique pas cette disparition.
Bon, pour conclure cette première partie de l'émission, des nouvelles...
Deux journées de mobilisation décidées par l'intersyndicale contre la réforme des retraites, mardi 7, mardi prochain donc, et samedi 11, une première journée pour le week-end, pour permettre à ceux qui ne veulent pas faire grève ou qui sont occupés ailleurs de participer aux manifestations. Et puis un chiffre qui a été donné par le ministère de l'Intérieur, 1 272 000 manifestants aujourd'hui dans toute la France et 150 000 de plus qu'il y a 10 jours, et légèrement plus que lors de la journée record contre la réforme Woerth en 2010.
La bataille des symboles, ouais. Très important.
Ce sera demain à la une de l'opinion, j'imagine.
Oui, absolument.
Merci beaucoup Nicolas Bétou d'être venu ce soir. C'est à vous. Merci Jimmy Mohamed. À demain, 14h30 dans le 13h40 dans le magazine de la santé. Dans un instant, Gérard Davet, Fabrice Lhomme nous parle de la pièce. Un président ne devrait pas dire ça. Christophe Willem sera sur la scène de C'est à vous. Le Vu, les actualités de Bertrand, l'œil de Pierre et les infos express. On vous attend. À tout de suite. Pas de kangourou cette fois. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.